Voilà, bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas encore salués. C'est toujours une joie de nous retrouver à Wavrin. Comme je le dis parfois, hein, c'est la première église où on a mis les pieds dans le nord ici. Voilà. Deux, trois jours après notre arrivée, il y avait un rassemblement ici avec Carlos Payan. Et donc c'est ici, en semaine, qu'on est venu pour la première fois. Voilà, alors... je vous propose de lire un passage dans Ésaïe 57. Et je pense que plusieurs des chants qu'on a chantés, des prières qu'on a priées, vont dans le sens que de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui, pour vous. Mais on va commencer par Ésaïe 57, à partir du verset 14, non 15. Voilà, Ésaïe 57, versets 15 à 19. Alors, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Car ce n'est pas toujours que j'intenterai un procès, ni éternellement que je m'irriterai, car sinon devant moi le souffle de la vie s'évanouirait, les êtres que j'ai faits dépériraient. L'avidité coupable du peuple d'Israël m'avait mis en colère, alors je l'ai frappé, je me suis caché dans mon irritation. Mais lui, rebelle, il a suivi la voie où l'inclinait son cœur. J'ai bien vu sa conduite, mais je le guérirai, et je le conduirai, je le consolerai, lui et ses affligés. Je créerai sur leurs lèvres des hymnes de louange, paix, paix à celui qui est loin, comme à ceux qui sont près, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai. On va prier. Ouais, merci Seigneur. Seigneur, merci de nous parler par ta parole ce matin. Ta parole est comme le baume de Galaad qui relève ceux qui sont fatigués, qui soigne ceux qui sont blessés et qui donne ton parfum à ceux qui en ont besoin. Et donc Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir être fortifié par ta parole, ranimé par ta parole, et de pouvoir être guidé ensemble dans tes voies et dans tes desseins qui sont bons et qui nous sont bénéfiques. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous dire ce matin et la façon dont tu vas parler à nos cœurs. Merci pour des cœurs ouverts. Merci pour une terre qui est prête à recevoir ta parole, comme cela a été dit, et à faire porter un bon fruit à ta parole dans la terre de nos cœurs. Amen. Amen. Alors, ce passage que j'aime beaucoup, il nous pose plusieurs questions. Première question, quelle image avons-nous de Dieu ? Quelle image avons-nous de Dieu ? Voilà, il nous est dit que Dieu est un Dieu élevé, saint, qui est dans le ciel. Mais il est aussi un Dieu proche. Donc est-ce que j'ai l'image d'un Dieu distant, tellement saint qu'il est inaccessible, ou l'image d'un Dieu proche, proche de nos faiblesses, proche de nos souffrances? Et est-ce que j'ai l'image d'un Dieu qui punit? Parce qu'on voit quand même qu'il dit qu'il a frappé Israël à cause de son avidité coupable. Ou est-ce que j'ai l'image d'un Dieu qui guérit? Est-ce que j'ai l'image d'un Dieu qui punit ou d'un Dieu qui reprend pour purifier le péché? Est-ce que j'ai l'image d'un Dieu qui guérit? Et le mot qui est utilisé pour guérir, c'est ce mot en hébreu veut dire salubre, rendre salubre. Hein, vous savez, quand quelque chose est vraiment contaminé, on le rend salubre, on le rend sain. Une meilleure santé physique et spirituelle. On pense souvent à la guérison physique, mais la guérison spirituelle est encore plus importante. Un Dieu qui guérit, et le mot aussi veut dire, et pour les maladies physiques, mais aussi pour les détresses des hommes, et aussi pour les maux des nations. Donc c'est ce Dieu-là que nous avons, qui n'est pas distant, mais qui est saint. Donc c'est pas notre petit copain, mais c'est quelqu'un, on ne peut pas le prendre à la légère, mais l'accès est ouvert, Dieu est proche et il prend soin de nous. Et ce Dieu, il voit les gens qui sont faibles, les hommes accablés. Le mot accablé ou contrit pour certains veut dire qui sont dans la poussière, qui sont dans le deuil. Vous savez, à l'époque, quand il y avait un deuil, on jetait la poussière au-dessus de la tête. Et qui sont aussi parfois pénitents dans la repentance. Donc Dieu vient dans le deuil physique, dans le deuil charnel, mais aussi dans le deuil spirituel, quand nous nous repentons devant lui. Et il vient consoler les abattus, ce qui veut dire les humiliés. Et des fois on est humilié par les autres, mais des fois on est humilié par notre propre péché. Dieu vient dans ces différentes situations consoler. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient ranimer ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. Et le mot en hébreu, c'est le mot chaya, qui veut dire revenir à la vie, qui veut dire être guéri et aussi sortir de la maladie, sortir du découragement, sortir de notre faiblesse. Dieu est ce Dieu-là. Et le dernier mot, et en fait c'est un peu mon thème, c'est qu'il nous dit qu'il vient guérir, mais il vient consoler lui et ses affligés, donc Israël et ses affligés. Il vient consoler les affligés. Les affligés, le mot en fait vient de mot pleure. Donc c'est ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent. Et des fois, on pleure un deuil, on pleure bruyamment, mais des fois, il y a des pleurs qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu pleures en silence dans ton cœur? Dieu vient pour guérir et consoler ceux qui pleurent. Le mot pour consoler, c'est nirum. En hébreu, ça veut dire consolation, mais ça veut dire aussi compassion. N'oublions pas, Hébreux nous dit que comme il est venu sur la terre, il a souffert, il peut compatir avec nous parce qu'il sait, il a vécu, mais sans péché, il a vécu ce que nous avons vécu de souffrance, de douleur, de réalité terrestre. On a un Dieu qui est du ciel, mais qui a les pieds sur terre, si je peux dire, qui sait ce que c'est la souffrance des hommes sur la terre. Il se rappelle que nous sommes poussière. Et donc, il vient consoler avec compassion. Et il y a un autre mot qui n'est pas traduit ici. En fait, quand on regarde le texte en hébreu, bon, dans les Strong, hein, je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu, mais j'aime bien sonder l'hébreu et le texte. Et en fait, il y a deux mots. Là, il y a le mot consoler, nirum, mais également apposé, il y a le mot shalom. Et ça, je pense que ça évoque à tout le monde le sens shalom, qui vient du mot shalom, la paix. Mais le mot shalom en hébreu, c'est plus que la paix. Ça veut dire compléter, ça veut dire finir, ça veut dire finir entièrement quelque chose, rendre complet, de sorte qu'il n'y a rien de cassé et rien qui manque. Quand Dieu vient consoler, il vient apporter une paix qui vient compléter son œuvre en nous, de sorte qu'il n'y a rien de cassé et rien qui manque. Ça, c'est la consolation de Dieu. Ça, c'est la consolation que Dieu veut donner à ceux qui pleurent, soit bruyamment, soit dans le sens physique à cause d'un deuil ou de toutes sortes d'événements, mais soit dans le fond de leur cœur en silence. Dieu veut rendre parfaite sa paix. Il veut accomplir entièrement ses desseins. Donc sa consolation, la consolation de Dieu que Dieu nous offre et que nous devons saisir par la foi, elle ranime ce qui est abattu. Elle redonne la vie, comme on l'a dit. Elle redonne la paix, mais une paix parfaite de Dieu, un shalom de Dieu, une paix qui accomplit pleinement les desseins de Dieu. Et donc j'aimerais illustrer ça par quelques exemples bibliques de ce que fait la consolation de Dieu quand nous la recevons à la mesure de ce qu'elle est. Et donc on va prendre un premier exemple qui est l'exemple de Moïse. C'est intéressant parce que Dieu agit dans toute l'histoire de l'humanité. Et quand je parle d'histoire d'humanité, ça veut dire qu'il vient dans différentes situations à différentes époques, il ne change pas. Il vient avec la même consolation auprès des hommes qui pleurent les mêmes maux, qui pleurent les mêmes causes, qui pleurent bruyamment ou en silence. Ça n'a pas changé, c'est une histoire de l'humanité qui parle de l'homme, mais une histoire de Dieu dans l'humanité qui parle du cœur de Dieu, qui connaît le cœur de l'homme. Moïse, Exode 18. On connaît tous l'histoire de Moïse. Alors c'est intéressant, pensons à l'histoire de Moïse. Hein. Un tel destin extraordinaire, mais terrible aussi, terrible à vivre. Vous imaginez, petit enfant, il est arraché à ses parents. Bon, on ne sait pas s'il va survivre. Il y a cette... commandement du pharaon, il dit il faut tuer tous les enfants mâles, et puis il est tiré des eaux, il est sauvé des eaux, il devient le fils adoptif de Pharaon, par la fille de Pharaon, et donc il devient le fils adoptif de ceux qui persécutent son peuple. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il devient au bénéfice des richesses du pharaon, qui est celui qui persécute son peuple. Donc il y a un combat en lui, et on voit, c'est pour ça aussi qu'il va tuer l'Égyptien quand il voit la souffrance de son peuple. Donc c'est quelqu'un qui bénéficie du salut de Dieu, mais qui a cette blessure en lui d'avoir été séparé de ses enfants, même si sa mère l'a nourri à bas âge, et qui mène une vie qui n'est pas celle qu'il aurait dû mener, et qui est... Il se retrouve déclaré fils de quelqu'un qui opprime ses parents et le peuple de ses parents. Et puis, après avoir tué cet Égyptien, il doit fuir. Il doit fuir à nouveau et il perd tout à nouveau. Il y a comme un double abandon. Il a perdu le lien avec son peuple et ensuite même son peuple ne le reconnaît pas et lui dit « Mais qui es-tu toi pour être juge sur nous ?» Donc il est chassé de tous côtés. Il y a un double abandon, une double blessure à différents âges de sa vie. Et j'ai souvent l'habitude de dire, j'ai constaté que c'est presque un principe spirituel. Quand on a une double blessure, souvent la deuxième blessure est plus sévère que la première. C'est pas forcément plus sévère, mais elle produit des effets plus dévastateurs. Vous savez, je prends souvent l'exemple d'un quelqu'un qui est allergique aux piqûres d'abeilles. La première piqûre ne lui fait rien. Mais elle instille quelque chose, et c'est la deuxième fois qu'il est piqué que cette personne fait une super réaction avec un œdème de Quick. Et si vous intervenez pas, bon, je sais qu'il y a des personnels médicaux là, ils savent de quoi. Si on n'intervient pas, ça peut entraîner la mort par étouffement. Hein. Et donc, c'est aussi, je pense, la même chose dans nos vies. Des fois, il y a des blessures qui sont semées, et si elles ne sont pas consolées et guéries par Dieu, quand la blessure est renouvelée, peut-être de façon un peu différente, elle produit des effets souvent terribles sur les vies. Mais Dieu est le Dieu de la consolation. Et alors lisons Exode 18, après avoir rappelé la vie de Moïse, parce que c'est important de rappeler le contexte. Tout homme dans l'abîme, même les hommes de Dieu, ils sont incarnés, ils sont humains, ils ont une histoire, ils ont des souffrances. Et ils ont des blessures et leur vie n'est pas indépendante de ce qu'ils ont vécu. Et donc Exode 18, je vais y arriver, Exode 18, voilà, les premiers versets. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il apprit comment Dieu avait fait sortir les Israélites d'Égypte. Alors il emmena Séphora, la femme de Moïse que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle, ainsi que les deux fils de Séphora. L'aîné s'appelait Gershom, ce qui veut dire émigré en ces lieux, parce que Moïse avait dit « Je suis un émigré dans une terre étrangère ». Il avait nommé le cadet Éliézer, « Mon Dieu me secourt », en disant « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». On sait que en hébreu, moi je pense que c'est un principe spirituel de Dieu, le nom d'une personne a une grande importance, parce que c'est ce qui sera le plus souvent proclamé sur ta vie. Que ça soit tes parents, que ça soit tes amis, que ça soit ton époux ou ton épouse, ils t'appellent, et c'est ce nom. On a perdu ce sens en Europe, mais le nom en hébreu est très important, et il déclare quelque chose de Dieu. Et donc c'est quand même étrange. C'est là qu'on voit le niveau de douleur. Quand tu déclares, il y a des fois on déclare des noms très positifs dans la Bible, et des fois des noms très négatifs. Par exemple, comment il s'appelle, Jacob, quand il a Benjamin, il y a Rachel qui est en train de mourir et qui dit, elle l'appelle Benoni, fils de ma douleur. Et lui, il dit non, il change son nom, Benjamin, fils de ma droite. Donc il aurait pu être le fils de la douleur, mais il devient le fils de la droite. Et donc le nom est très important. Et on voit la douleur de Moïse parce qu'il appelle son premier Gershom, émigré en ces lieux, parce que je suis un émigré dans une terre étrangère. Donc ça, c'est le premier regard de Moïse sur sa vie. Voilà, je suis émigré dans une terre étrangère. Il a perdu les privilèges qu'il avait. Il a perdu le lien avec sa famille de sang et avec sa famille adoptive. Mais Dieu va le reconstruire. Et ensuite, il a un fils cadet et il l'appelle comment ? Mon Dieu me secourt. Parce que Dieu m'a délivré de l'épée de Pharaon. Donc il y a un premier regard de Moïse et il y a un deuxième regard de Moïse. Je vais illustrer ça par une petite anecdote que j'ai vécue il y a de nombreuses années quand je voyageais en Afrique au long cours. Et un jour j'étais dans l'est de ce qu'on appelait le Zaïre à l'époque, le Congo démocratique, non pas démocratique, c'est le Congo populaire. Je ne sais plus, le deuxième grand Congo, c'est la République populaire du Congo, ou quelque chose comme ça, il y a une différence, mais bon, c'était le Zaïre. Et je me retrouve dans l'Est, dans une ville qui s'appelle Béni, c'est un nom prédestiné, Béni. Mais à l'époque, je j'étais pas converti, j'étais en cheminement en fait. Et puis, je logeais dans cette ville, et vers le coucher du soleil, un peu avant le coucher du soleil, j'ai eu un désir, parce qu'il y avait une colline, je voyais ça de là où j'étais, il y avait une colline de prairie là, et puis je me suis dit, ah, si je monte sur cette colline, peut-être que je vais voir le Rouvenzori. Alors le Rouvenzori, c'est une grande montagne qui culmine à 5200 mètres et qui est à la frontière entre le Zaïre et c'est la Ouganda-Rwanda. Et donc je me suis dit, ah, avec l'atmosphère qui est claire et puis le soleil qui est dans la bonne direction, qui vient de l'ouest, moi je vais regarder vers l'est, je vais peut-être voir. Alors je cours là, puis vous savez ce que c'est, vous montez une colline et en fait il y a encore une petite colline derrière, donc j'arrive tout essoufflé, puis je regarde, je scrute, je vois rien du tout. Je dis, ça doit être dans cette direction, j'avais pris ma carte pour voir à peu près la direction, ça doit être dans cette direction, je vois rien du tout. Et là j'entends, c'est pour ça que je dis que j'étais en cheminement, clairement Dieu qui me dit, regarde plus haut. Et je me mets à lever les yeux parce que je regarde à peu près à l'horizon, légèrement en hauteur, et je regarde bien plus haut et bam, d'un seul coup, donc c'est à 120 km à peu près, hein, et d'un seul coup je vois le sommet du Rouvenzori avec les neiges. À l'époque il y avait encore les neiges éternelles là, paf, qui jaillit, mais qui était beaucoup plus haut que ce que moi je regardais. Et là c'était, et puis avec la qualité de l'air, ça faisait comme si c'était proche, quoi. Et donc ça m'a parlé. Quelques mois plus tard, je me retrouve, je fais l'ascension du mont Kenya, donc une balade, enfin un trekking de 5 jours, et puis tu te retrouves, tu dors la dernière fois, tu dors un refuge qui est à l'altitude du Mont Blanc, à 4800 mètres, et tu arrives, bon, le mont Kenya il fait 5200 et quelques, mais la dernière partie c'est pour les alpinistes, hein, moi j'en suis pas un. Donc tu arrives sur un replat juste au pied de la dernière paroi, et c'est à 4996 mètres, il y a une pancarte qui est là. Là tu manques d'oxygène vraiment. Et puis là je savais qu'il y avait plein de plaines, et au loin il y a le Kilimandjaro. Donc l'autre immense sommet africain, 5600 mètres, ouais, même certains maintenant me disent, pendant longtemps on a dit 5600 mètres, maintenant on dit 6000 mètres. Et pareil, je regarde, mais là il y a 320 km entre les deux, hein, 320 km de steppe, etc. C'est très dégagé, il n'y a pas d'autre sommet. Donc j'ai l'espoir de voir, parce que la journée était très claire à nouveau, c'était le matin très tôt, et je regarde, et pareil, j'ai cette voix qui me dit, mais regarde plus haut. Et là, je vois le cône là, enneigé du Kilimandjaro. Extraordinaire, extraordinaire. 320 km et vous voyez ça clair. Et ça vous donne l'impression de proximité. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu nous appelle à regarder plus haut. La consolation de Dieu, elle nous aide à regarder plus haut. Moïse a regardé, il a baissé les yeux, il a regardé à sa situation, il dit, ah, je suis émigré dans une terre étrangère. Tiens-toi, tu vas t'appeler Gershom, là. Parce que je souffre trop, émigré dans une terre étrangère. Mais le cadet, on ne sait pas combien d'années après, il a un fils cadet, et là il a changé son regard. Et il a vu que son épreuve, dans son épreuve, Dieu l'a délivré de la main de Pharaon. Et c'est intéressant que c'est mentionné là, quand non seulement Moïse a été délivré de la main de Pharaon qui voulait le tuer, mais quand tout le peuple d'Israël a été délivré de la main de Pharaon. C'est après être sorti avec Israël d'Égypte. Et donc là, il a un autre regard sur sa vie, un autre regard sur son épreuve. Il a laissé la consolation de Dieu changer son regard. Et avec un deuxième regard, il voit comment Dieu a transformé sa vie. Ça, c'est la consolation de Dieu. Elle change notre regard sur nos épreuves et sur notre vie, sur qui est Dieu et sur comment il agit. Deuxième exemple, Genèse, l'exemple de Joseph. Genèse 41, verset. Alors, Genèse 41, verset. À partir du verset 50. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donc la femme de Joseph, hein, une égyptienne, qui est une fille de sacrificateur égyptien, donna deux fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Vous voyez, encore une grande souffrance. Hein, trahi par ses frères, mis en esclavage, mis en prison. Tant d'injustices. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond. Car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. À nouveau deux fils, à nouveau deux regards. Joseph a été consolé par Dieu et il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances. Il a reçu la consolation, la vraie consolation de Dieu du fait qu'on ne ressasse plus les souffrances. Quand Dieu nous console véritablement, nous ne ressassons plus les souffrances, le deuil. Je ne dis pas qu'on oublie dans le sens que j'y pense plus du tout, mais ce n'est plus quelque chose qui vient dominer sur nous, qui vient nous accabler de tristesse, qui vient abattre notre esprit, mais c'est quelque chose que Dieu a ranimé, c'est quelque chose dans lequel Dieu a donné sa paix, rien de cassé, rien qui manque, la plénitude de l'accomplissement des desseins de Dieu. Et donc, il a reçu ça, mais ensuite il reçoit plus que ça. Il reçoit Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu, la consolation de Dieu, elle enfante quelque chose de nouveau. La vraie consolation de Dieu enfante dans ta vie quelque chose de nouveau si tu la laisses faire son œuvre parfaite. Et ce quelque chose de nouveau, en fait, Éphraïm veut dire double fécondité, double fécondité. Quand Dieu restitue, il restitue au double. C'est pas juste que oh ben j'ai perdu ça pendant tant d'années et oh ben tiens Dieu il me redonne la même chose, bon mais j'aurais préféré il y a 20 ans hein. Mais c'est que Dieu il donne une double fécondité, il donne quelque chose de meilleur. Et il enfante quelque chose de nouveau et de meilleur. La consolation de Dieu quand tu la reçois pleinement, elle enfante toujours quelque chose de meilleur. Les meilleurs desseins de Dieu pour ta vie. Et vous savez, c'est intéressant parce que plus tard, il y a Jacob qui revient, qui retrouve son fils, et il lui dit, ces deux fils que tu as eus, ça sera pour moi. Ils s'attribuent la fécondité de Joseph, ils feront partie, ils seront des tribus à part entière, comme tous mes fils. Donc il y a quelque chose de fort. Dieu, il élève ça, il élève les fils de Joseph. Mais il fait quelque chose. Jacob, il tourne ses mains. Et Joseph est fâché. Il lui dit, mais non, c'est celui-là l'aîné. Tu dois bénir d'abord l'aîné. Et il dit, non, laisse faire Dieu. Et il élève le second comme dominant sur l'aîné. Et donc Éphraïm devient celui qui va dominer sur l'aîné. Et quand j'ai repensé à ça, Dieu me disait, tu vois, quand tu reçois la consolation de Dieu, non seulement Dieu restitue au double, il fait quelque chose de nouveau, mais il appelle sa fécondité et ses desseins meilleurs, sa nouveauté, à régner dans ta vie. Ce n'est plus la douleur et l'épreuve qui doit régner dans ta vie, mais c'est la nouvelle chose que Dieu fait dans ta vie qui doit régner. Et Éphraïm va dominer sur son frère parce que Dieu privilégie la fécondité, et le but de Dieu, c'est de faire enfanter sa fécondité dans ton épreuve par sa consolation reçue et agissante dans nos vies. Un dernier exemple, l'exemple de Naomi et Ruth. Et donc vous savez que Naomi, en fait, elle est exilée et puis elle perd ses deux fils, son mari d'abord qui meurt, ses deux fils. Elle n'a plus d'espoir d'avoir une descendance. Et puis il y a cette Moabite qui n'a pas le droit de citer en Israël, qui l'accompagne, Ruth, qui veut dire ami. C'est intéressant parce que ça veut dire ami. Et puis c'est Ruth qui va enfanter en se mariant avec un Israélite, ce qui était absolument impensable à l'époque, hein, parce que les Moabites n'avaient pas le droit de citer en Israël, ils n'avaient pas le droit de demeurer au sein d'Israël, mais Dieu rachète ça. Et donc Ruth, c'est le livre qui précède 1 Samuel. Qu'est-ce qui se passe à la fin? À partir de voilà, lorsqu'elle se fut unie à il se fut uni à elle, donc Boaz à Ruth, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et elle donna la naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que ton nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre. Il te rendra une raison de vivre. Et il prendra soin de toi dans tes vieux jours. Et ensuite, Noémie prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Et un peu plus loin, on apprend, elles lui donnèrent le nom d'Obed, ça veut dire servant Dieu. Et Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Donc qu'est-ce qu'on a à nouveau là? Encore une histoire de fécondité par la au travers de la consolation. Vous savez, Naomi, ça veut dire gracieuse. Et elle avait plein d'espoir dans sa vie. Elle avait un mari, elle avait deux fils, et puis la famine vient et tout est balayé. Tout est retourné. Et dans l'épreuve, elle perd son mari, elle perd ses fils, elle n'a plus d'espérance. Mais, et elle dit, voilà, ne m'appelez plus gracieuse, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amertume. Est-ce que dans ta vie, parce que les desseins de Dieu semblent avoir été volés, l'amertume est entrée, et tu as fait de l'amertume ton identité? Et la tristesse est venue remplir ton cœur. Mais ensuite, grâce à Ruth, l'amie, elle va retrouver son nom de Naomi et elle va retrouver une raison de vivre. Il te redonnera une raison de vivre et même quelque chose de meilleur parce qu'au lieu d'être juste grand-mère, elle serre l'enfant dans son cœur et c'est elle qui se chargea de l'élever. C'est comme si à son âge avancé où elle ne peut plus espérer avoir un enfant, Dieu lui donne presque un enfant en propre. Et non seulement il lui donne un enfant qu'elle n'attendait plus, mais cet enfant va devenir le grand-père de David. Et ça va être la lignée de Christ. À partir d'une Moabite, à partir d'une femme exilée qui perd mari, enfant, et qui se dit amère, Dieu, par sa consolation, il vient racheter et il vient semer quelque chose de nouveau. Et il vient remplir, et pour une juive, être la lignée du Messie. Qu'est-ce qu'on peut espérer de meilleur ? Être non seulement bien sûr la mère du Messie pour Marie, mais être dans la lignée du Messie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un basculement à travers une Moabite. Dieu va donner la lignée du Messie, mais à une femme qui s'est laissée consoler et qui de l'amertume est passée à une raison de vivre. On pourrait trouver encore d'autres exemples. David, le premier fils meurt, le deuxième fils devient Salomon, et c'est le deuxième fils qui règne. Et il y a une histoire de consolation là aussi. Et donc je voudrais finir avec un dernier passage. Et je sentais que c'était... Alors c'est un frère a reçu ce passage pour cette année 2023, mais d'un seul coup ça m'a percuté, et avec cette idée de consolation. Je sentais que c'était vraiment ça que je devais vous partager ce matin. Et donc ce passage, prenez-le comme un signe pour cette année 2023, pour ce que Dieu veut faire dans ce cadre de consolation. Et c'est Ésaïe 61, voilà, qui est déclaré sur celui qui vient, sur le Messie, sur Jésus. Et Jésus va reprendre cette déclaration dans Luc 4 quand il va aller dans la synagogue, et il va reprendre une partie du passage. Et donc qu'est-ce qu'il est dit? Donc c'est déclaré sur Jésus: l'esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés, vous voyez, les affligés, les humiliés, une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez le pendant avec Ésaïe 57. D'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil. Ça, c'est le mandat de Jésus. Ça, c'est le Fils que Dieu a envoyé sur la terre pour souffrir avec nous, pour pouvoir compatir avec nous, pour être capable de consoler, de sa vraie consolation qui redonne la vie et la fécondité. Afin que cette vie et cette fécondité règnent sur nos vies, que ça soit plus la mort, que ça soit plus la tristesse, mais que ça soit la fécondité et la vie de Dieu qui règne. Et regardez le verset qui suit. Afin d'apporter à ceux qui sont dans Sion sont afin d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants. Il veut substituer ce qui avait été volé à ce que lui veut donner, redonner, afin d'apporter la vie. La splendeur au lieu de la cendre. Comme on a dit, la poussière et la cendre, c'est ce qu'ont jeté par-dessus la tête les Juifs quand ils étaient dans le deuil, que ce soit un deuil physique ou un deuil spirituel. De quoi couvres-tu ta tête ? De quoi couvres-tu ta tête ? Est-ce que c'est de poussière et de cendre parce que tu ressasses un deuil physique ou un deuil spirituel, ce que tu as perdu dans le passé? Peut-être tu as enterré ton rêve. Tu sais, je suis frappé en réfléchissant à cette prédication. J'ai eu quelque chose qu'on a l'habitude de dire en français, pas un dicton, mais quelque chose comme ça. Et souvent on dit il a fait son deuil de. Il a fait son deuil. Mais c'est très négatif en fait. Tu vois, on dit oh ouais, il a fait son deuil de faire carrière dans. Il a fait son deuil d'avoir un enfant. Il a fait son deuil. Mais c'est terrible comme expression. Ça parle de renoncement et ça parle de mort. Mais le deuil que Dieu veut racheter, c'est pas du tout ça. C'est pas la mort, le renoncement. C'est racheter. C'est faire revivre. Et donc on a des expressions parfois dans nos langues qui sont comme une déclaration de mort. Et Dieu veut pas qu'on fasse notre deuil de. C'est pas ça faire le deuil. Faire le deuil, c'est effectivement porter pour un temps la mort, mais afin que Dieu console, que Dieu rachète et que Dieu fasse revivre. De quoi as-tu fait le deuil, comme on dit en français? D'une espérance, d'un rêve. Mais qu'est-ce que Dieu veut racheter? Qu'est-ce que Dieu veut faire revivre? L'huile d'allégresse au lieu de du deuil. Voilà. L'huile, ça peut être l'huile de cuisine, bien sûr, mais ça peut être un huile qui était utilisée comme médicament. Ça peut être un onguent pour se faire belle ou beau. Et c'est aussi l'huile d'onction. La consolation de Dieu, j'ai presque fini, mais bon, si vous devez y aller, allez-y. La consolation de Dieu, elle enfante une nouvelle onction. Elle enfante une nouvelle onction. Et enfin, des habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Ouais. Et l'esprit abattu, c'est le roi. On a chanté ça tout à l'heure. Roua, roua. C'est le souffle de Dieu. Mais abattu, dans ce sens, c'est un autre mot hébreu qui n'est pas le même et qui veut dire terne, pâle, sans couleur, faible. J'ai une question pour chacun de nous. Qu'est-ce que l'esprit de Dieu en toi est devenu? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est joyeux? Ou peut-être est-ce qu'il est un peu terne, un peu pâle, un peu sans couleur, un peu faible? Dieu veut ranimer son esprit, son roua, le souffle de Dieu. Dieu veut souffler un esprit nouveau, même au travers de tes épreuves, au travers de sa consolation. Dieu veut ranimer quelque chose de nouveau. Cette œuvre, donc vous avez vu, c'est au lieu de, au lieu de. C'est l'œuvre de substitution que Jésus fait à la croix, a fait à la croix. Il a pris nos maladies, et au lieu de la maladie, il a amené la guérison. Il a pris la malédiction de la mort, et au lieu de la mort, il a donné la vie éternelle. Il a pris, je pourrais citer encore le péché, et il a mis le pardon à la place, la réconciliation avec Dieu. Qu'est-ce qu'est devenu le Saint-Esprit de Dieu en nous? Et je finis avec la fin du verset. Qu'est-ce qu'ils disent? Afin de devenir une plantation de l'Éternel. Une plantation, c'est là qu'on sème et c'est là qu'on récolte. Qu'est-ce que Dieu a semé dans ta vie? Et parfois, c'est semé à travers l'épreuve, à travers la douleur, à travers le deuil. Mais il est dit que si la semence ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut pas porter de fruits. Quelque chose doit mourir de nos deuils afin que la consolation et la guérison de Dieu, la nouvelle onction de Dieu puisse vivre et régner et accomplir les desseins de Dieu entièrement. Et il est dit au verset suivant, car ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Ça, c'est l'onction nouvelle qui est libérée sur ceux qui sont consolés par Dieu. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Rebâtir. Ils relèveront ce qui a été dévasté, relevé. Et quand tu as été consolé par Dieu, tu as une capacité de non seulement d'être relevé, mais de relever les autres. Et ils restaureront les villes ravagées. Que dans cette nouvelle année, nous puissions expérimenter la consolation de Dieu dans nos deuils, là où il y a des larmes visibles et là où il y a des larmes invisibles. Que nous puissions laisser la fécondité de Dieu faire son œuvre et que cette fécondité règne en nous et que nous recevions une nouvelle onction, une triple onction pour rebâtir, pour relever et pour renouveler, faire à neuf. Oui, parce que quand il dit restaureront, dans une autre version c'est renouveler, en fait le sens c'est ça. Ça c'est mon mes vœux, si je puis dire, pour chacun de nous, pour 2023, qu'il vous donne cette triple onction par sa consolation reçue et accomplissant les desseins de Dieu en vous. Amen. On va prier. Oui, Seigneur, merci parce qu'avec toi, il n'y a pas... l'épreuve n'est pas une impasse. L'épreuve n'est pas une impasse. La souffrance n'est pas une impasse. Elle n'est pas une fatalité, mais il y a une issue de secours et il y a non seulement une issue de secours, mais il y a une capacité de Dieu de transformer le mal en bien et de tirer la fécondité et le meilleur de Dieu de nos épreuves, à condition que nous nous laissons consoler. Seigneur, je prie qu'en 2023, nous expérimentions quelque chose de nouveau, de la consolation de Dieu. et que ça produise une fécondité dans nos vies. Seigneur, je prie le souffle de Dieu, Seigneur, là où il est terne, là où il est faible, Seigneur, tu souffles dans nos cœurs, Seigneur, et tu viens purifier, tu viens consoler, tu viens guérir, tu viens amener ta paix, ton shalom, ton tout est accompli, Seigneur, l'accomplissement de tes desseins. Tu viens déposer dans nos vies quelque chose de meilleur. Seigneur, je prie que nous soyons capables de le croire, de le reconnaître et de le saisir et de nous laisser consoler sans ressasser, mais en entrant dans le nouveau de Dieu. Merci pour cette onction libérée sur chacun ce matin, qu'elle fasse son œuvre au cours de cette année et qu'elle produise la fécondité, le fruit de Dieu qui va venir régner dans nos vies et qui va nous donner la capacité de rebâtir, de relever et de renouveler nos vies et celles des autres. C'est ma prière pour chacun de nous, Seigneur. Viens, viens, souffle et accomplis tes desseins et donne à tes enfants le meilleur afin qu'ils puissent le redonner autour d'eux dans le nom de Jésus. Amen.